Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La clé de votre énergie, dans son édition collector, est un ouvrage de développement personnel de Natasha Calestrémé consacré au lien que l'auteur établit entre fatigue, souffrance émotionnelle, répétition de vie et sentiment de perte d'élan. Journaliste et réalisatrice, ayant exploré des pratiques de soins non conventionnelles, elle propose une méthode structurée en 22 protocoles destinés à aider le lecteur à repérer puis à dénouer des blocages personnels ou familiaux. Le livre ne relève pas d'un manuel clinique fondé sur un protocole scientifique validé au sens médical. Il combine plutôt introspection, pratiques symboliques, psychologie populaire, références aux approches énergétiques et traditions spirituelles. Son objectif central est de rendre le lecteur actif face aux schémas qu'il juge épuisants, notamment la culpabilité, les conflits non résolus et les héritages émotionnels. L'ouvrage se distingue par son orientation très pratique, les idées avancées sont systématiquement traduites en exercices. Cette promesse d'autonomie explique son attrait, tout en invitant à lire ses affirmations sur la santé et la guérison avec discernement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, 22 protocoles pour passer de la prise de conscience à l'action. La structure en 22 protocoles constitue le principe organisateur du livre. Au lieu de se limiter à expliquer pourquoi une personne se sent bloquée, Natasha Calestrémé propose des séquences d'actions à réaliser par soi-même. Cette forme répond à une limite fréquente des livres de développement personnel. Reconnaître un problème ne suffit pas nécessairement à modifier une habitude, une relation ou une représentation de soi. Les exercices visent donc à transformer une intuition émotionnelle en démarche concrète, avec une place accordée à l'observation, à l'écriture, à la formulation d'intentions et à des gestes symboliques. Le protocole donne aussi un cadre à des sujets qui peuvent être diffus, tels que la fatigue morale ou l'impression de revivre les mêmes situations. Il permet de découper un travail intime en étapes plus accessibles. Cette standardisation a toutefois une limite importante. Des expériences complexes, notamment le deuil, le traumatisme ou la maladie, ne se résolvent pas mécaniquement par une procédure identique pour tous. La valeur du livre réside moins dans une garantie de résultat que dans l'impulsion qu'il fournit pour examiner ces difficultés avec régularité. Les lecteurs ont intérêt à considérer les protocoles comme des outils de réflexion et non comme des substituts à un accompagnement médical ou psychothérapeutique lorsque celui-ci est nécessaire. Deuxièmement, la fatigue comme signal d'un conflit émotionnel plutôt que comme simple manque d'énergie. Le point de départ du livre est l'expérience familière de se sentir vidé. L'auteur interprète cet état comme le signe possible d'émotions douloureuses, de peur, de culpabilité ou de situations restées sans résolution. Cette lecture invite le lecteur à ne pas traiter son épuisement seulement comme une défaillance individuelle ou un problème d'organisation. Elle attire l'attention sur la charge psychique des conflits, des renoncements et des relations qui mobilisent durablement l'esprit. Sur le plan pratique, cette perspective peut encourager à identifier ce qui épuise réellement une obligation intériorisée, une colère retenue, un attachement à une situation passée ou une difficulté à poser des limites. Elle redonne ainsi une dimension qualitative à la question de l'énergie. Conçue comme disponibilité émotionnelle autant que comme vitalité. Néanmoins, le livre avance souvent une relation étroite entre mal-être émotionnel et problèmes de santé. Cette association doit être maniée avec prudence. Les symptômes physiques peuvent avoir des causes multiples et exigent un avis de santé approprié. L'intérêt analytique de l'ouvrage est donc de faire de la fatigue un objet d'enquête personnelle, non d'en fournir une explication universelle. Il propose une lecture complémentaire de l'expérience vécue, plutôt qu'un diagnostic. Troisièmement, rompre les cycles répétitifs en identifiant les schémas qui organisent les choix. Un thème majeur de la clé de votre énergie est la répétition de scénarios défavorables. L'auteur évoque des cycles qui semblent ramener certaines personnes vers les mêmes impasses, qu'il s'agisse de conflits, de déceptions, de peurs ou de formes d'autosabotage. L'idée n'est pas tant qu'un destin immuable gouvernerait l'existence, mais que des mécanismes insuffisamment reconnus peuvent orienter les réactions et les décisions. Cette approche est utile lorsqu'elle conduit à distinguer l'effet présent des interprétations héritées du passé. Une personne peut par exemple constater qu'elle répond toujours par la culpabilité, l'évitement ou le sacrifice dans des circonstances pourtant différentes. Nommer ce mécanisme crée un espace entre le déclencheur et la réponse habituelle. Les exercices proposés cherchent à rendre cet espace opérant afin de favoriser une autre manière d'agir. Le livre se situe cependant à la frontière entre analyse psychologique et langage énergétique. Pour les lecteurs sensibles à ce vocabulaire, celui-ci peut offrir une représentation parlante de ce qui entrave. Pour d'autres, il restera métaphorique. Dans les deux cas, l'apport le plus solide consiste à examiner les répétitions sans fatalisme et à tester des changements précis dans sa conduite, ses limites et ses relations. Quatrièmement, les blessures transgénérationnelles comme grille de lecture des fardeaux familiaux. L'ouvrage accorde une place importante à ce que l'auteur appelle les fardeaux émotionnels hérités. Il suggère que certaines peurs, loyauté, culpabilité ou manière de se percevoir peuvent être liées à l'histoire familiale, y compris à des événements antérieurs à la naissance du lecteur. Cette idée répond à une expérience courante, il arrive que les normes, les silences ou les traumatismes d'une famille continuent d'influencer les générations suivantes par l'éducation, les récits et les comportements transmis. L'intérêt de cette grille est d'élargir l'analyse au-delà de la responsabilité individuelle. Elle peut aider à comprendre pourquoi une injonction familiale, telle que ne pas décevoir, se sacrifier ou ne pas parler de certains sujets, conserve une telle force. Les protocoles invitent alors à identifier ces loyautés et à s'en différencier symboliquement. Il faut néanmoins distinguer cette exploration personnelle d'une démonstration causale. Attribuer trop rapidement une difficulté actuelle à un héritage invisible peut simplifier une situation qui dépend aussi du contexte social, des choix présents et de la santé mentale. La lecture est la plus féconde lorsqu'elle sert à interroger les messages reçus et à choisir lesquels préserver ou transformer. Elle devient moins convaincante lorsqu'elle prétend expliquer avec certitude l'origine de toute souffrance. En dernier lieu, une synthèse assumée entre pratiques énergétiques, spiritualité et travail sur soi, Natacha Calestrémé revendique une démarche nourrie par ses rencontres avec des énergéticiens, guérisseurs, médiums et chamans, ainsi que par ses propres épreuves. Le livre ne sépare donc pas strictement psychisme, corps, symbole et spiritualité. Il propose un univers ou un rituel personnel. Une visualisation ou une attention portée à l'intuition peuvent contribuer à une transformation intérieure. Cette hybridation est l'une de ses caractéristiques les plus nettes. Elle donne au lecteur qui ne se reconnaît pas dans une approche uniquement rationnelle des voies d'expression plus imagées et incarnées. Les pratiques symboliques peuvent notamment aider à marquer une décision, à mettre en forme une séparation ou à rendre perceptible un changement que la seule réflexion laisse abstrait. En revanche, l'usage de termes issus de la science ou de la santé ne doit pas être confondu avec une validation scientifique des mécanismes énergétiques proposés. Les témoignages favorables et le succès des ateliers ne suffisent pas à établir une efficacité générale. Le livre gagne ainsi à être lu, selon son véritable registre, un guide expérientiel de développement personnel. Fondé sur l'appropriation subjective des exercices, son lecteur idéal est ouvert à cette dimension spirituelle, tout en conservant un esprit critique et des repères médicaux clairs. En conclusion, la clé de votre énergie s'adresse avant tout aux lecteurs qui vivent une fatigue émotionnelle, ont le sentiment de répéter des situations pénibles ou souhaitent interroger l'influence de leur histoire familiale sur leur présent. Ils y trouveront un cadre de travail particulièrement concret. Les 22 protocoles transforment des notions larges, comme la culpabilité, le blocage ou la loyauté familiale, en occasion d'observation et d'action personnelle. Le bénéfice le plus réaliste du livre réside dans cette mise en mouvement. Il peut favoriser une meilleure attention aux déclencheurs émotionnels, aux scénarios récurrents et aux limites qui méritent d'être redéfinies. Comparé à des ouvrages de psychologie plus académiques, il se distingue par son langage énergétique, par son recours aux pratiques symboliques et par son ancrage dans les thérapies non conventionnelles explorées par l'auteur. Comparé à des livres spirituels plus abstraits, il se démarque au contraire par une organisation en exercices directement applicables. Cette position intermédiaire explique à la fois son succès et ses limites. Les personnes réceptives aux approches intuitives pourront y trouver une méthode stimulante d'introspection. Les lecteurs exigeant des preuves scientifiques devront garder une distance critique envers les liens postulés entre émotions, héritage transgénérationnel, énergie et santé. En cas de souffrance intense, de traumatisme ou de symptômes physiques, ces pratiques ne remplacent ni un diagnostic ni un suivi par des professionnels qualifiés. Lu ainsi, le livre devient un support complémentaire de réflexion personnelle plutôt qu'une réponse totale aux difficultés vécues. Si vous souhaitez soutenir Natacha Calestrémé, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.